Cours de philosophie éthique par le Père Marie-Dominique Philippe, le 17 octobre, l'an 2000, à Saint-Jean-d'Arc.
Vient de paraître de Jean Vanier le goût du bonheur au fondement de la morale avec Aristote. C'est cette thèse qu'il avait passée et qu'il a redonné à la manière de Jean Vanier. Comme m'a dit hier un frère, quand Jean Vanier parle d'Aristote, il parle comme d'un ami qu'il a vu hier. Tellement il aime Aristote. C'est intéressant, puisque Jean Vanier n'est pas un intellectuel, mais il aime les hommes. C'est son charisme d'aimer les hommes et d'aimer les pauvres. Alors, le goût du bonheur d'Aristote. Il m'a envoyé gentiment parce qu'il avait passé sa thèse, du moins, je l'avais aidé beaucoup pour sa thèse de ce temps-là, au Solfoire. Nous allons justement regarder le fondement de la morale. C'est une question qu'on se pose, qu'il faut se poser, puisque la grâce ne détruit pas la nature. S'il y a une éthique chrétienne, je n'en doute pas, j'en suis sûr. S'il y a une éthique chrétienne, il y a un fondement à cette éthique, un fondement naturel. Naturellement, l'homme est moral, c'est-à-dire responsable de ses activités. Si un être humain n'est pas responsable de ses activités, on dit qu'il est immature. Il est comme un gosse de 4 ans, immature. Le gosse de 4 ans peut se mettre en colère. C'est pas moral, hein. N'allez pas dire que c'est moral. Vous allez lui dire qu'il est colérique, c'est sûr. Et selon les psychologues, le gosse de 4 ans, 4 ans, c'est l'âge de la négation pour eux. Du moins, il disait ça dans le temps. C'est l'âge de la négation parce que c'est le commençant où on s'aperçoit qu'on n'est pas seul au monde. Alors, c'est toujours gênant qu'on soit deux au monde. C'était le père, la mère et le gosse, ça ira encore. Mais il y a autre chose. Alors, rechercher le fondement de la morale, c'est très important. Parce que je ne peux pas considérer que la loi qui est donnée à Moïse soit le fondement philosophique de la morale. Je considère que la loi qui est donnée à Moïse a été très importante, a joué un rôle très grand sur le peuple juif, et continuer sur les chrétiens. Mais Jésus nous dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais l'achever. Alors, je vois très bien le lien du christianisme avec la loi. C'est un des grands problèmes très importants de mettre d'un côté la loi de Moïse, inscrites sur des tables de pierre. On les cherche, hein, ces tables de loi. On voudrait beaucoup les retrouver. Et volatiliser. Et puis Jésus, les béatitudes. Et c'est très important de comparer les deux. De voir comment la loi est dépassée par les béatitudes, et que d'une certaine manière, les béatitudes ne sont pas le fondement de la morale. Les béatitudes en sont la fleur. Grâce à la grâce chrétienne, par la grâce chrétienne, par Jésus. La morale chrétienne, c'est Jésus, l'auteur, et c'est lui qu'on suit. Et il nous a donné la charte, la morale chrétienne par les béatitudes. Mais les béatitudes supposent la loi, et la loi suppose le fondement de la morale. Alors c'est intéressant de voir le goût du bonheur, fondement de la morale d'Aristote. Et c'est intéressant parce que ça se lit comme un dialogue très simple, très direct. Alors ce fondement de la morale humaine, c'est vrai, c'est le bonheur, mais aujourd'hui, comment parler du bonheur? C'est très difficile. Aristote, Athènes, en Grèce, le monde était encore bâti sur l'artisanat, au point de vue économique. La famille jouait encore un rôle très important. La politique restait très humaine. Alors, on pouvait prendre le bonheur, mais aujourd'hui, voyez, rigueur, qui, au point de vue protestant, joue un rôle très important, parce que, pour les protestants, c'est le grand philosophe. Rigueur a cherché, et cherche encore, quel fondement du bonheur, quel fondement de la morale. Je crois personnellement, je cherche et je continue de chercher, parce que c'est difficile à bien préciser. Je crois qu'en effet, il y a en nous, en tout être humain, un goût du bonheur, pour employer le langage de Jean Vénier. C'est-à-dire un appétit, un désir, un appétit. C'est plus profond, c'est plus précis qu'au goût. Du goût et des couleurs, on ne discute pas. Ça, c'est le vieil adage. Ce n'est pas un principe, c'est un adage. L'appétit du bonheur, c'est ce que saint Thomas dira. Mais cet appétit du bonheur n'est pas explicite, parce qu'on a souvent un tas d'expériences malheureuses qui fait que cet appétit du bonheur, on le trouve très difficilement. Mais il existe, et c'est vrai qu'il y a un appétit du bonheur. Mais la philosophie d'Aristote repose sur l'expérience. Je ne peux pas dire que j'ai l'expérience du bonheur. J'en ai un désir, un appétit. Un désir très foncier, très radical. Quelle est l'expérience que je peux avoir qui fonde la morale? L'expérience humaine. Je crois que c'est l'amitié. Que l'amitié ne soit pas pour tous, comme expérience, ça se peut. Mais l'amitié existe pour beaucoup d'hommes comme une expérience de joie et même de bonheur, comme une expérience vraie. L'amitié me donne l'expérience la plus profonde que je peux avoir de l'homme. Dans ses qualités, dans sa grandeur. L'amitié avec quelqu'un qui recherche la vérité, comme moi-même je la recherche, est une amitié profonde. Et je crois que c'est par l'amitié que j'ai l'expérience la plus objective de l'homme, de sa grandeur, de ce qu'il peut être pour moi comme bien, et vice-versa, les amis ont l'un et l'autre une grande expérience de l'homme. Et je crois qu'au point de vue moral, c'est l'expérience la plus profonde, la plus simple en même temps, que je peux avoir de l'homme moral. D'une certaine manière, l'amitié est comme une fin, donc un bonheur, parce que le bonheur porte sur le bien fin, sur le bien qu'on aime pour lui-même. L'ami, je l'aime pour lui-même. Je ne l'aime pas pour un autre ami, mais je l'aime pour lui-même. Et donc, je découvre là l'homme dans sa propre grandeur, pour lui-même. De sorte que il me semble bien que cette expérience de l'amitié est capitale pour la philosophie éthique et qu'elle est comme le fondement et en même temps la fin propre. C'est pour ça qu'elle est fondement de ma vie morale. Oui. J'aurai un autre fondement de ma vie morale quand je découvrirai l'existence de Dieu. Quand je la découvrirai personnellement, philosophiquement, ou tout simplement selon les traditions. Parce que la tradition suffit à la vie morale. Ce n'est pas une certitude absolue, mais c'est une certitude humaine suffisante pour baser ma vie. Alors c'est sûr, quand je découvre que Dieu existe, ma morale prend tout de suite une autre dimension, c'est la morale religieuse. Et ce que je vous disais, il y a trois niveaux dans la morale. Morale fondamentalement humaine, morale religieuse et morale chrétienne. Ça, c'est très important. Si vous arrivez à bien saisir ça, c'est énorme, parce qu'on confond toujours. On devrait être attentif à ça vis-à-vis de toute manière de défendre la morale. Le niveau humain est commandé par l'amitié. Le niveau objectif est commandé par la morale chrétienne, par la morale religieuse. Tout homme peut atteindre l'attitude religieuse. L'attitude religieuse n'est pas confessionnelle, elle est humaine. Ça, je crois qu'il faut être très farouche là-dessus. La laïcité française, parce que ça c'est très propre à la laïcité française, la laïcité française est terrible, puisque Elle interdit de parler de Dieu. Donc, on considère que la morale religieuse n'est pas humaine. Et on n'a pas le droit d'enseigner la morale religieuse. Alors, c'est faux. Supprimer le point de vue religieux à l'homme, c'est amputer l'homme. Et c'est très grave. Parce que si on ampute l'homme de sa relation avec Dieu, on met l'homme dans un état tel qu'il est comme orphelin toute sa vie, puisque Dieu est son père, le père de son intelligence. Et donc interdire l'homme de regarder l'existence de Dieu, c'est amputer l'homme et le mettre dans un état d'orphelin. D'où l'angoisse. Les angoisses qui se répandent de plus en plus proviennent de cet état-là. Un homme coupé de Dieu se met dans un état d'angoisse. Tôt ou tard, il ne peut pas vivre en dehors de Dieu. Vivre pleinement humaine. Et vivre tout simplement, vivre pleinement humaine. Il faut considérer que la morale religieuse est humaine. De sorte que, pour bien comprendre, puisque la grâce ne supprime pas la nature, pour bien comprendre la morale chrétienne, il faut d'abord regarder la morale purement humaine, ensuite la morale religieuse, et en troisième lieu, la morale chrétienne. Ça, c'est très important. Je prends donc une hypothèse de recherche, qui n'est pas une hypothèse dans la mesure où l'expérience de l'amitié me permet de comprendre d'une manière beaucoup plus profonde ce qu'est la morale, la responsabilité de mes actes. C'est à l'égard de mon ami que je suis le plus responsable et que la responsabilité peut se mieux le comprendre, parce qu'elle est mutuelle. On se dit, entre amis, le point de vue de la responsabilité. Alors, analysons philosophiquement, analysons ce que représente le choix d'un ami, quand je dis à quelqu'un « tu es mon ami » et que l'autre répond « toi aussi, tu es mon ami » puisque pour l'amitié, il faut la réciprocité. Vous ne pouvez pas choisir quelqu'un qui n'est pas votre ami, comme ami. Vous choisissez comme ami quelqu'un qui vous choisit aussi comme ami. La réciprocité est capitale dans l'ordre de l'amitié. Mais c'est du reste ce qui fait que c'est pas toujours commode. On peut aimer quelqu'un, et puis si cette personne ne vous aime pas, on la désire. Et alors, on a tous les romans possibles, tu vois, avec les désirs de l'amitié de quelqu'un, d'aimer quelqu'un, tout ce que vous voulez. Mais ça, c'est pas ce qu'on va faire. On va faire le roman du désir de l'amitié. Je prends l'amitié comme expérience humaine, avec la réciprocité. Et je suis en présence d'une expérience unique au monde. Au point de vue moral, morale humaine, je dis bien que c'est l'expérience la plus typique. Alors, je vous pose la question, avez-vous une expérience humaine plus parfaite pour la morale que celle-là? Si vous n'avez pas d'expérience plus parfaite que l'expérience d'amitié, vous devez donc dire, c'est vrai, c'est grâce à l'amitié que je peux établir une éthique humaine, fondamentalement humaine. Si j'avais une autre expérience, alors je dirais c'est plus l'amitié. Le goût du bonheur demeure un goût, pas une expérience. Alors, c'est un fondement lointain, dans une vision de sagesse, je pourrais dire ça. Mais dans une expérience, je vais plus loin, je dis non. Ce bonheur immédiat pour moi, parce que le bonheur est toujours un désir. J'ai aucun, sur Terre, aucune expérience de bonheur qui puisse durer. J'étais très heureux un jour, de fête, c'est merveilleux. Mais il y a le lendemain. Et le lendemain est moins drôle. Tandis que dans l'amitié, il n'y a pas de lendemain. C'est ça qui est très curieux. Dans l'amitié, il y a la mort. Mais c'est accepté dans l'amitié humaine. Dans l'amitié humaine, la mort est acceptée. Et on continue d'aimer son ami. S'il y a une amitié vraie, on continue. C'est même là où on voit si l'amitié est vraie. Elle continue après la mort. Elle n'est pas supprimée. Analysons tout ce qui est impliqué dans l'amour d'amitié. Et voyons ensuite si cette analyse contient un acte moral parfait. Tous les éléments de l'acte moral sont présents dans l'amitié. Donc, je puis, dans l'analyse de l'amitié, de l'amour d'amitié, établir une vraie philosophie morale. Voyez, pour faire comprendre la recherche que nous faisons. Et nous pouvons tous la faire, puisque tous, on a l'expérience de l'amitié plus ou moins forte, embryonnaire, mais une expérience de l'amitié. L'amitié repose sur un amour. Sur un amour spirituel. L'amour d'une personne que j'aime. C'est la première chose qui existe dans l'amitié. Il n'y aurait pas d'amitié s'il n'y avait pas éclosion d'un amour spirituel à l'égard d'une personne. Et je dis bien un amour spirituel à l'égard d'une personne, pas à l'égard d'une qualité d'une personne. J'ai rencontré quelqu'un, oh, extraordinairement intelligent. Mais ce n'est pas à cause de l'intelligence que vous dites c'est un ami. J'ai des amis intelligents, mais ce n'est pas l'intelligence qui fait l'amitié. Il peut y avoir une très grande différence entre quelqu'un qui n'est pas très intelligent et puis quelqu'un qui est très intelligent, et il peut s'établir une véritable amitié. Ce n'est pas l'intelligence qui spécifie l'amitié, qui spécifie cet amour fondamentale qui est dans l'amitié, c'est la personne. Quand j'aime quelqu'un d'un amour d'amitié, j'aime une personne. C'est toi que j'aime. C'est pas à cause de tes yeux, c'est pas à cause de ton front, c'est pas à cause de tes mains. Je t'aime parce que c'est toi. Dans tout amour d'amitié, il y a ça. Quand vous aurez quelqu'un qui dit « Ah, je l'aime follement, il a ses yeux. » Alors, je dis « Bon, c'est très bien, ça peut être un amour passionnel. » Vous pouvez avoir la passion de quelqu'un à cause de ses yeux. Un vieux père maître, je me souviens, quand j'ai eu petit père maître, il était venu me donner des conseils. Il m'a dit, c'est le regard. Les amis, c'est le regard. On voit tout de suite qu'ils s'aiment quand ils se regardent. C'est vrai. C'est par le regard qu'on a le contact le plus fort avec ce qu'on aime. Regard. Mais c'est pas tout. C'est un regard d'imbécile. Si c'est un regard de quelqu'un qui n'est pas bon, qui est méchant. Il y a des yeux méchants. Regardez, on a une frousse intense de les rencontrer. Alors, je n'ai pas d'amitié, mais il a un regard extraordinaire. Le regard peut être un élément très important, mais ce n'est pas celui qui spécifie l'amour spirituel. L'amour spirituel qui est au fond de toute amitié, c'est la personne. C'est très curieux du reste. Grâce à l'amitié, j'ai un sens beaucoup plus aigu de la personne humaine. Je sais ce que c'est grâce à l'amitié. Quand il n'y a pas d'amitié, j'ai aucune amitié. Je n'ai que moi comme ami. C'est triste. C'est très triste. Parce que je ne peux pas être l'ami de moi. L'amitié, c'est l'autre. Et c'est l'autre que je connais. Moi, je me connais tellement mal. Je m'aime, oui, mais c'est ennuyeux de vivre toujours avec soi. Et n'avoir que soi. On s'ennuie. Voir des êtres qui n'arrivent pas d'avoir d'amitié. Ils s'aiment trop. Et l'amitié, on voit tout de suite, l'amour trop grand de soi empêche l'amitié. Ça met toujours un obstacle. On aime l'autre. Et on aime la personne de l'autre. Et ça, c'est fondamental dans l'amour d'amitié. Aristote dit « L'amour d'amitié implique la bienveillance. » Donc un amour spirituel, j'aime l'autre. Parce que l'amour est toujours extatique. C'est-à-dire que l'amour me fait sortir de moi. Un amour de soi, exclusif, c'est un amour qui n'a pas trouvé l'autre, qui n'a pas trouvé l'âme sœur, qui, alors, on se replie sur soi. C'est toujours un repli sur soi. Et par le fait même, c'est un amour non conquérant. L'amour demande d'être conquérant de l'autre. Pas de séduire, parce que ça, c'est pas entièrement l'amitié. On a un pouvoir de séduction, chacun. Et séduire, c'est un mauvais procédé. C'est un très mauvais procédé. Parce que séduire, c'est l'intelligence. La séduction se fait par l'intelligence, tandis que l'amour, c'est la bonté. Quelqu'un de bon attire, même s'il n'est pas très intelligent. On lui pardonne, peut-être. Il est si bon, si vous connaissez sa bonté. Donc l'amour spirituel porte sur la bonté personnelle de l'ami. Et je commence toujours par ce premier amour. Donc l'amour est toujours extatique, c'est-à-dire une sortie de soi vers l'autre. Et si cet amour est un retour sur moi, exclusif, hein, parce qu'il y a un premier amour de soi, c'est vrai, je m'aime, mais on ne s'y arrête pas. S'arrêter à cet amour de soi et ne pas voir les autres, c'est très ennuyeux. C'est exclusif. Il faut aimer les autres dans cet amour extatique. On sort de soi et on aime l'autre. C'est pour ça que saint Thomas dira que l'amour implique un appétit. On est tendu vers l'autre. On est tourné vers l'autre. Dans tout amour spirituel, c'est ce qu'il y a. Eh bien, dans l'amitié, il y a cette expérience de cet amour spirituel. C'est même ce qu'il y a de fondamental dans l'amitié. Il y a un premier amour. On a tous ce genre d'expérience. Quand il y a des quantités de personnes, pourquoi telle personne nous arrête? On dit, tiens, au point de vue humain, je parle de point de vue humain, au point de vue humain, il y a une espèce de sympathie instinctive vis-à-vis de tel ou tel. Je ne peux pas dire « Ah, je les aime tous ». Ça, c'est déjà un aspect faussement religieux. J'aime tout le monde, de la même façon, j'aime tout le monde. C'est-à-dire qu'on n'aime personne. Alors, on aime tout le monde. Donc, l'amour a ceci de particulier qui se porte sur telle personne bonne, elle m'attire. Ça ne veut pas dire que j'aime nécessairement le meilleur. Non. Ça, c'est curieux. C'est très curieux. Alors, il y a des philosophes qui m'ont appelé des atomes crochus. On aime certaines personnes, l'autre, on ne l'aime pas. Non, ce n'est pas vrai, ça. C'est parce que l'amour est toujours concret. Il n'est pas abstrait. Il est toujours concret. J'aime tel bien, j'aime telle personne. D'une façon particulière, sans être exclusif. Et j'aime telle personne. L'amour est concret. Et l'amour spirituel n'est pas abstrait. Il se porte sur une personne. Donc, ça, c'est le fondement de toute amitié. Il y a un premier amour. Dans l'amour d'amitié, je réfléchis sur cette personne qui m'attire. Il y a un acte d'intelligence à l'intérieur de cet amour. C'est très curieux. C'est que l'intelligence aime de s'incliner sur l'amour que j'ai à l'égard de telle personne. Pas une intelligence critique. Les gens trop critiques, l'amour profond va avorter. Ah non, je ne peux pas l'aimer. Il est beaucoup trop retourné sur lui, puis limité. Il n'est pas intelligent. Alors vous excluez. Quand l'amour est trop critique, or c'est justement une des grosses difficultés de notre monde, c'est que la négation est très facilement avant l'affirmation. Quand on aime quelqu'un, il faut qu'il y ait cette confiance initiale. Et cette confiance initiale, elle vient de l'intelligence. Et très facilement, je nie. Je ne veux pas avoir confiance. Il y a la négation. Et ça arrête l'amour que j'ai instinctivement. Cette sympathie première du fait même qu'il y a la négation. Si au contraire, j'ai l'intelligence affirmative, j'essaierai de comprendre comment cet amour pour cette personne peut se développer. Alors, je vais essayer de comprendre comment dans l'amitié, il y a un développement de ce premier amour. Et je verrai par là les étapes de l'acte moral. L'amour comme tel, ce premier amour, il n'est pas moral. Il n'est pas moral. C'est pas mal d'aimer. Et c'est pas moral. C'est au-delà de la morale. C'est pour ça que je dis instinctivement, je l'aime. La morale va naître après. Et c'est intéressant de voir à quel moment l'amour d'amitié est moral. À quel moment ce premier amour devient moral. Pour fonder ce que j'appelle la morale. Je vous laisse là-dessus, comme ça vous pourrez y réfléchir.